France Culture.
On arrive au bout là, les enfants.
France Culture.
On ne devait pas sonner quelque part ?
Le Book Club.
Bonjour. Je suis Marie.
Enchantée.
Pareillement. J'ai les mains gelées. Pas grave ?
C'est pas grave.
On peut poser nos sacs ici ?
Oui.
Dans la bibliothèque de Jane Evelyn Atwood.
Est-ce que je peux vous demander d'enlever les chaussures ?
Bien sûr. Ouais.
J'ai des Imperial Hotel en Japan.
Wow.
Il y a trois.
Des chapeaux ? Vous voulez qu'on mette des chapeaux ?
Marie Richard.
Non, vous
gardez. Jane Evelyn Atwood est une grande photographe américaine de naissance et française d'adoption, comme on dit, dont l'œuvre a une dimension sociale et politique très forte. Elle passe du temps avec les personnes qu'elle photographie, des prostituées à Paris, des femmes en prison dans le monde entier, des enfants aveugles dans le monde entier aussi, mais aussi le ravage des mines antipersonnelles ou un autre ravage, celui causé par l'épidémie SIDA. Ces séries témoignent autant des sujets qu'elle photographie que de l'immersion qui est la sienne dans les mondes dont elle témoigne. Plusieurs des séries ont donné naissance à de très beaux livres, Rue des Lombards par exemple. Quand nous la rencontrons chez elle, un nouveau livre vient de paraître qui réunit ses photos de chevaux, une passion ancienne, une passion d'enfance pour cet animal miroir, livre qui s'appelle tout simplement Horses. Dans la salle à manger de son appartement, quantité d'images de chevaux, des gravures, des dessins, un tableau font face à une très belle et très grande bibliothèque qui n'abrite uniquement que des livres de photos. Ici, les livres sont classés par ordre alphabétique. Dans d'autres endroits, les portions de bibliothèque sont plus thématiques, reflétant des périodes de vie tout à fait entremêlées à des projets photos, les deux avançant indéniablement ensemble. Place à la voix et à l'accueil si chaleureux de Jane Evelyn Atwood.
C'est parti ? Alors, donc... Bah merci beaucoup de nous recevoir chez vous.
Mais merci de m'inviter. Je trouve que l'émission est très intéressante.
Ouais, c'est chouette comme projet.
Mais j'ai un peu peur parce que maintenant, j'ai plus de tout de mémoire. C'est terrible.
Ah.
Et je peux lire un livre et penser que c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. Et une semaine après, je ne peux pas vous dire. Donc, bon, il faut faire avec. C'est à cause de l'âge. Je pense que c'est seulement à cause de l'âge.
Moi, ça m'arrive et je suis un tout petit peu plus jeune que vous et ça m'arrive pareil.
Non, mais vous êtes si petite d'être ma petite fille.
Alors, au début, on doit dire où sont les livres chez vous.
Ok, d'abord, ça c'est mon bureau. Donc, tous les livres là, c'est pas très intéressant. C'est des livres dans lesquels je suis.
Ok.
Donc, il y a mes livres, mais après, il y a beaucoup d'autres livres où ils parlent de moi, où il y a des photos de moi et tout ça. Donc, c'est plutôt des livres de photos.
Ouais.
Mais les livres à lire, ils sont éparpillés un peu partout. Et alors, ça, c'est le salle à manger bibliothèque.
Wow.
Et horses. Si vous voyez, il y a des horses partout. Et ça, c'est tous les livres de photos.
Ah, faut décrire alors. Donc, c'est. Vous décrivez ou je décris ? Tout un mur.
Oui, c'est comme vous voulez. C'est tout un mur.
Avec une bibliothèque en fer forgé ?
Oui, qui est venue de la Banque de France. Et j'ai eu de la chance de trouver trois éléments. Juste quand ils sont venus sur le marché, dans les puces et tout ça. Et donc, j'ai acheté les trois éléments. Ils étaient faits comme ça, patinés comme ça.
Ouais.
Et c'est la seule bibliothèque que j'ai jamais trouvée.
Ah, moi, j'ai jamais vu ça,
Qui est assez haut pour Richard Avedon. Le Avedon Baldwin, ici, c'est le livre le plus haut. Et il va là-dedans. Et c'est le seul endroit où mes livres sont par ordre alphabétique.
Ah, parce que les livres de photos.
Yeah. Et ça, c'est parce que sinon, je ne peux pas les trouver. Et je sais que Susan Sontag, par exemple, était très contre de mettre les livres en ordre alphabétique. Parce
pourquoi?
Elle a dit que les livres ne s'entendent pas. Certains livres ne s'entendent pas.
Ah oui, bien sûr, avec leurs voisins.
Et alors, mais elle parlait des livres de lecture plutôt. Et elle avait, il paraît, la plus grande bibliothèque privée qui existait.
Ah,
oui. Des milliers de livres.
Il faudrait qu'on la retrouve, cette bibliothèque de Susan Sontag.
Oui, maintenant, parce qu'elle est décédée,
mais
je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais
alors, ça, c'est les photos poches
ouais.
que vous devez connaître. C'est des petits livres noirs pour la photo. Maintenant, ils ont changé de pastel. Je déteste les pastels. C'était une erreur. Ça, c'est mon mur de cheval. C'est des dessins, des photos, des petits dessins en encre, des peintures, des gens... très connus, des gens totalement anonymes, qu'on trouve aux puces, qu'on trouve partout, enfin.
Et ce mur avec des cadres, donc avec, vous l'avez dit, des photographies, des dessins, des estampes, avec que des chevaux, il existait avant ce projet Horses?
Ah oui, ça a commencé avec le Rose Bonheur qui se trouve là, et que j'ai acheté pour presque rien il y a 40, oh, wow. il y a 50 ans. Ça coûtait, well, presque rien, pour moi c'était cher, c'était 500 francs, mais comme ça, encadré comme ça, signé. Et c'était dans une boutique en face de où j'ai habité avant, qui était une boutique pour les jouets, mais pas pour les enfants, pour les collectionneurs, des anciennes jouets. Et de ma fenêtre, je voyais cette tête de cheval dans leur boutique. Et j'ai descendu et j'ai entré et je voyais ça. Moi-même, je ne savais pas qui était Rose Bonheur à cette époque-là. Et je l'ai acheté tout de suite parce que je l'ai trouvé d'une beauté inimaginable. Après, je me suis renseignée sur Rosa et maintenant, je sais bien qui elle est. Et à côté, la photo là, c'est mon arrière-grand-père qui est en train de gagner avec ce cheval et le petit chariot derrière. Vous voyez, il porte juste un chapeau, il porte même pas un casque, parce que dans le temps, c'était pas très safe. Il y a toutes sortes de trucs comme ça.
Qui fait face à votre bibliothèque donc de livres de photos. Yeah,
et ça, là, c'est des livres de photos. Ça, c'est des livres de photos. Et ça, c'est d'autres livres. Et là, c'est pas alphabétique. C'est plus ou moins par sujet. En haut et en deuxième étagère, c'est des prisons. Mm-hmm. Parce que j'ai fait 10 ans en prison.
Enfin, vous n'avez pas fait 10 ans en prison. Vous avez fait 10 ans de travail photographique en prison.
Ouais. J'ai passé à peu près un an en prison. Mais je pouvais sortir quand je voulais, alors ça, c'est une grande différence. Après, il y a des livres qui s'agit de la photographie.
Des livres théoriques sur la photographie? Des livres?
Des livres sur la photographie, ouais. Ou des photographes eux-mêmes, comme Eugene Smith, ou Capa, ou Diane Arbus. Diane Arbus, c'était la raison que j'ai fait de la photo. Donc, j'ai tout ce qui existe sur Diane Arbus, je l'ai lu. Et après, il y a des romans, toutes sortes de romans. Là, j'ai replongé dans Norman Mailer, qui pour moi est un des plus grands écrivains, journalistes qui a jamais existé. Vraiment extraordinaire.
Vous dites replongé parce que vous avez beaucoup lu avant.
J'ai lu avant parce qu'on lisait Norman Mailer, voilà. Mais on l'a lu à l'université, mais c'était il y a très longtemps. Et il a écrit un des livres les plus extraordinaires sur qu'il s'agit de le crime. C'était l'histoire de Gary Gilmore. Gary Gilmore, c'était un criminel aux États-Unis qui a tué gratuitement. Je pense que c'était deux mecs dans une station d'essence ou quelque chose comme ça, mais juste gratuitement. C'était un type vraiment méchant. Mais aussi, c'était un type brillant. Et il a écrit des lettres. Et Norman Mailer a écrit le song, the Executioner's Song, c'est le nom du book, la chanson de l'Executioner. Je suis sûr que c'est traduit en français. Et la seule raison, je pense, que Norman Mailer a jamais eu le prix Nobel, c'est parce qu'il a poignardé sa femme avec un couteau.
Ah, lui-même,
voilà.
Norman
oui,
Mailer.
Oui, oui, dans une dispute. Il n'a pas tué, heureusement, mais tu ne peux pas faire ça et avoir le prix Nobel.
Non, c'est pas possible.
Mais c'était un type extraordinaire. Une sorte de fou furieux, un écrivain absolument génial. Et alors, j'ai sorti ça pour vous parler de ça, mais aussi... Ça, c'est un livre aussi sur Gary Gilmore, qui est écrit par le frère de Gary Gilmore. Et la raison que ça s'appelle Shot in the Heart, c'est parce qu'il a été condamné à mort aux États-Unis et dans un état où tu pouvais choisir comment tu voulais être exécuté.
Et c'était Shot in the Heart.
He wanted the peloton. Et il a demandé, et il y a beaucoup de gens qui étaient contre la peine de mort, qui essayaient de le défendre et tout, et il disait, non, non, je veux mourir. Il était aussi un fou furieux, mais... Absolument fascinant, fascinant, un type fascinant. Et Michael Gilmore a écrit l'histoire de qu'est-ce que c'était d'avoir ce frère qui faisait ça. C'est un très, très beau livre. Malheureusement, je ne pense pas que c'était traduit en français. Anyway.
Vous regardez beaucoup vos livres de photographie?
Au début, oui.
Plus maintenant.
Après, comme référence, je peux retourner, tu vois. Ouais.
Mais pas si souvent que ça.
Ça dépend sur quoi je travaille, pourquoi... Oui, j'ai besoin qu'il soit là. Après, il n'y a pas beaucoup de livres ici. Oh, yeah. Il y a des livres qui sont des livres de groupe. You know, like The Art of Photography, tout ça. Ça c'est des trucs. Et aussi, il y avait plus de place dans les livres de photos dans la grande. Donc, vous allez avoir Willy Ronis et... Leonard Fried, ils sont là parce que...
La fin de l'alphabet.
Et Patrick Zachman aussi, parce qu'ils prenaient beaucoup de place. Donc j'ai mis ça là.
Et encore quelques romans là-haut, non?
Il y a quelques romans en haut.
Pas mal de choses. Enfin, il y a des choses assez contemporaines. Vous achetez.
Ça, c'est le grand livre de mon éditeur qui a fait Horses et qui a fait mon livre Rue des Lombards. Vous connaissez?
Bien sûr.
Yeah, alors, c'est Xavier Barral. Maintenant, malheureusement, il est décédé, mais c'est un très beau livre sur l'évolution. C'était un de ses bébés. Il m'a donné ça pour mon anniversaire.
Donc, pour nos auditeurs, Xavier Barral, c'était un grand éditeur de photographie.
Pour moi, c'était le plus grand éditeur photo. Ouais.
Et maintenant, son travail est poursuivi
par l'équipe
Atelier EXB.
Et ouais. Ils sont très bons. Ils sont très, très bons. Et c'est pour ça que je travaille toujours avec eux. J'étais au milieu de la prise de vue pour mon livre sur les horses quand Xavier est décédé. Et c'était absolument catastrophique. Parce que pas seulement est-ce que c'était mon éditeur, mais c'était un ami. Et après, sa femme ne voulait pas que l'équipe continue. C'était arrêté pendant un an et demi, ou presque deux ans. Bon, j'ai continué mes photos, mais je ne savais pas pour qui ça allait être. Et finalement, ils ont dit, oui, on peut continuer, on va faire le livre. Oh là là, ouf, un grand ouf.
Je referme ça. Oui, donc c'était une figure très importante pour vous d'avoir un éditeur comme ça.
Oh my God. J'ai fait jusqu'à là 13 livres. Et mes premiers livres sont sortis avec mon avocat pour me défendre, mais le fait que j'étais auteur de ce livre et que la maison d'édition voulait faire quelque chose de mauvais avec. Après, j'ai eu une bonne expérience avec Le Seuil. Et après, Xavier Barral, et j'ai trouvé mon éditeur, tu vois, c'est... Et puis, il y a le reste de tous les livres, beaucoup de livres... Mais malheureusement, j'ai regardé tout à l'heure et c'est trop sombre pour vous, je pense, pour vraiment voir les livres. Mais ici, par exemple, il y a ici et ici sont des livres qui sont faits par des amis à moi et qui m'ont donné leurs livres.
Ah, ils sont regroupés par amitié, ceux-là.
Oui. Après, ici, c'est un peu les Me Too type livres, tu vois?
Les Me Too type livres. Ah oui, sur les violences sexuelles
oui,
et sexistes.
Oui, des trucs comme ça. Après, sur les États-Unis, le 11 septembre et tout ça, ça se trouve là-haut. Et là, ça c'est mes livres d'alcoolique anonyme, parce que je suis alcoolique. Et j'ai arrêté de boire en 87. Et je garderai les livres de AA pour le reste de ma vie.
Mais c'est quoi les livres de AA?
Well, le plus important, c'est ce petit livre.
Mais c'est des livres qu'on vous donne dans les groupes de parole ou c'est des livres qui sont écrits par des anciens alcooliques?
Mais c'est un peu de tout. Mais quand vous êtes à AA, vous avez l'option de les acheter si vous voulez.
Ouais.
Et this is what they call the big book.
On dirait une Bible.
Et c'est des histoires des gens qui arrêtaient de boire. Et moi, j'ai lu ce livre, I don't know, 5 fois. January 31st, 1987. C'est là où j'ai eu mon dernier verre. Ouais. Et je suis connue par mon prénom, c'est tout. Je ne vais plus dans les réunions maintenant parce que c'était en 87. Enfin, je pouvais toujours y aller. J'y vais pour aider quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un qui a besoin.
C'est toutes les semaines?
Mais c'est quand vous voulez. Ici, à Paris, c'est tout le jour. Jour et nuit, tu peux y aller.
Le principe étant. Enfin, c'est un peu comme on voit dans les films, ce sont des cercles de parole, c'est ça?
Oui. Mais c'est fascinant. Et, but anyway, all these books.
Tout were... ça, ce sont des livres qui ont un rapport avec le fait d'avoir arrêté de boire.
Yeah.
Mais ça, par exemple, genre Home Before Dark, c'est des fictions?
This is fiction, but this is John Cheever. He was one of the great American authors. And his daughter, Susan Cheever, wrote the book about her father, John Cheever. Et il y a certainement des livres de John Cheever traduit en français.
Mais ça n'a rien à voir avec les
Non, mais il était alcoolique.
Ah,
et
oui.
elle parle de ça.
Ah,
tu vois, il était une grande alcoolique.
Et quand ah oui, d'accord. Là, ça continue, drinking life.
Yeah, yeah.
Okay.
Et quand il a quand il a enfin arrêté de boire, en fait, il est sorti du placard. Il était gay aussi. Mm-hmm. Mais il était marié. Il était, mm-hmm. Enfin, c'était compliqué parce que c'était il y a très longtemps.
Bien sûr.
Quand ni l'un ni l'autre étaient acceptés, ouais. Soit l'alcoolisme, soit l'homosexualité. Anyway, il y a des livres comme l'autobiographie de Tina Turner qui est un peu fluff, you know, mais j'adore Tina Turner, donc je l'ai lu.
Bien
et
sûr,
il y a d'autres
évidemment.
Qui sont beaucoup plus importants.
Fluff,
comme,
ça veut dire quoi? C'est genre plus léger? Non,
fluff. Léger,
fluff,
oui.
C'est léger.
Fluff, yeah.
Okay. Et c'était important de, par exemple, dans ce moment-là de combat avec la maladie, avec l'alcoolisme, lire, c'était important, c'était une ressource importante.
C'était, moi, j'ai toujours lu, ouais. Donc c'était important pour moi.
Mais
moi,
je veux dire, c'était, ça pouvait être un outil.
Maybe, mais comme ils disent, la meilleure chose, c'est les réunions.
Ouais.
Mais let me see if I can just get ouais. up there. There's one book in there that, genre, you know, quand j'étais en reportage.
Attention, vous n'allez pas vous casser la figure.
Quand j'étais en reportage. Ah voilà, ça c'est, je vais vous raconter,
c'est
celui qui a tué Martin Luther King.
Mais il y a vraiment beaucoup d'assassins dans votre bibliothèque, Jenny Blinatou.
Non mais ça c'est un livre absolument génial.
Vous allez descendre, je vous donne la main. Non, c'est bon.
Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans la prison pour mon travail sur les prisons. Mm-hmm. Et le jour que tu arrives en prison, tout le monde te dit qu'il est là, mm-hmm. tu vois. Et donc, ils m'ont dit, si vous voulez le voir, il va dire non, parce que vous n'avez pas demandé en avance, il est toujours comme ça. J'ai demandé, il a dit non, mais le directeur de la prison a dit, si vraiment vous voulez le voir, vous m'écrivez une lettre et moi je lui donne. Donc, je suis retournée en France, j'ai écrit la lettre, j'ai envoyé, et il a dit oui, vous pouvez me voir. Donc, je suis retournée aux États-Unis et je l'ai interviewé. Et il m'a donné ce livre après l'interview. Mm. J'avais une question, qui vous a payé? Pour tuer Martin Luther King, parce que je suis convaincue qu'il n'a pas fait tout seul. Mm-hmm. Il était un criminel, comme tout le monde dans sa famille, ils étaient toujours...
Dans le crime.
Dans le crime, sortis, entrés en prison tout le temps. Mm-hmm. Et au fait, il était sorti, il s'était évadé d'une prison quand King a été tué. Mm-hmm. Et ils ont trouvé ses empreintes partout, ils ont trouvé l'arme et tout. C'est lui qui l'a fait, mm-hmm. c'est sûr. Mm-hmm. Mais il est... Il n'était pas assez intelligent de le faire tout seul, à mon avis.
Mm-hmm. Bon, il a dit quoi? Il n'a rien dit?
Il a dit qu'il ne l'a pas fait. Il dit toujours qu'il est innocent. Mais il détestait les journalistes aux États-Unis et il m'a dit, la seule raison que je vous ai
accepté
de vous voir, c'est parce que vous venez d'Europe. Il adorait l'Europe. Parce qu'au fait, il a fait le beau, il était en Angleterre quand ils l'ont attrapé. Et donc, c'est l'histoire de ce livre.
En fait, il y a quand même beaucoup de moments dans votre bibliothèque qui sont réunis par sujet, par affinité.
Ouais. Mais parce que sur quoi je travaille
ouais.
aussi.
Ouais, bien sûr.
J'essaie de trouver tout ce que je peux sur
ouais,
le sujet. Ouais.
On va lire les textes que vous avez choisis.
Culture, le book club dans la bibliothèque de Jane Evelyn Atwood. Marie Richeux.
Alors, parmi les textes que vous avez choisis, on y va, on se lance. Qu'est-ce que vous voulez commencer par quoi? Par Barthabas?
D'accord.
Oui.
Parce qu'on est dans les chevaux.
On est dans les chevaux. Vous venez de publier un livre qui s'appelle Horses avec des photographies de chevaux. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous avez choisi ce texte de Barthabas?
Parce qu'il y a un link avec les chevaux, bien oui. sûr, mais aussi parce que je trouve qu'il écrit comme un dieu. Et c'est quelqu'un qui C'est un cheval. Il est un cheval. Et ce petit texte que j'ai trouvé, qui fait partie du livre qui s'appelle « D'un cheval, l'autre », il parle de tous ces chevaux qu'il a eus, mais vraiment, il parle de lui jusqu'au cheval, au fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant.
On le lit ?
Ok, c'est dans un chapitre qui s'appelle « Vénègue, le centaure, dansant ». Comme un fauve en cage, il tourne et se retourne, mu par sa seule rancœur. Les oreilles effacées, il frappe des dents sur les barreaux de fer quand s'approche son voisin de boxe. Avec les humains, il semble plus respectueux. Ce Lusitanien au chanfrein busqué est un guerrier qui, soumis par la contrainte, aspire toujours à la révolte. Il n'est pas grand, mais très bien fait. Sa robe presque blanche a des reflets d'opale et sa crinière est cendrée. C'est une peinture. Il a l'épaule profonde, les cuisses puissantes et les yeux enflammés. Delacroix ou Jéricho l'auraient imaginé sur le champ de bataille, chevauché par un démiurge, s'extirpant de la mêlée, le regard plein de fureur et d'effroi. En le voyant, j'ai compris qu'il allait m'éprouver. Avec lui, je découvre par la pratique que c'est le corps qui s'accorde au mouvement de l'âme. Il m'apparaît alors comme un miroir, et c'est en frère que je le reçois. Car je sais trop ce que l'on peut nourrir de violence quand on manque d'assurance. Ne vais-je pas moi aussi, par à coup, sur les chemins de la vie? Brutale et parfois violente, mes bravades d'artaban, mes humeurs de bar tabac, sont les ruades d'un timide qui ne se résout pas à prendre sa place parmi ses congénères. En dialoguant en silence, nous nous sommes soutenus, compris, affirmés. Je lui ai ôté sa méfiance. Il m'a donné sa confiance. Cette dernière paragraphe où il dit... Il m'apparaît alors comme un miroir. Il a une prise de conscience. Il se comprend si bien. Il sait qu'il est monstrueux. Au début, avec nous, moi, je voulais qu'il comprenne que je n'étais pas juste encore une fille qui adorait les chevaux. Donc, je lui ai envoyé deux ou trois de mes livres, Rue des Lombards et d'autres, pour qu'il voit que je suis une photographe sérieuse. Et donc, il m'a demandé de me voir. J'ai passé peut-être 30 secondes dans sa roulotte. Et à ce moment-là, il avait le cheval qui s'appelait le Caravage, qui était un cheval hyper connu, une grande star. Et j'étais toujours là, et ça l'a gêné, Barthabas. Et il m'a parlé plus que brusquement. Il était très dur avec moi. À un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas faire ça. C'est Personne ne m'a jamais parlé comme ça quand j'étais en reportage. Et j'arrêtais de venir à un moment donné. Et après, je suis retourné après quelques jours. Et il était très content de me voir. Je pense, peut-être il avait peur que j'allais pas revenir. En fait, j'espère que c'est pas prétentieux de parler comme ça. Mais... Et après ça, ça allait très bien entre nous. Et après, longtemps après, quand j'ai commencé à lire les livres de Jérôme Garcin, il a écrit ce livre sur Barthabas et il dit, ça arrive souvent, où il a une clash avec quelqu'un et après il devient des amis. Et c'est peut-être juste quelque chose qui est nécessaire pour lui.
Dans sa façon.
Ouais.
Mais d'ailleurs, il parle de lui comme des ruades, quoi.
Ouais.
Des espèces de réactions comme ça, des chevaux où ils ont souvent peur. C'est souvent par peur d'ailleurs en fait qu'ils sont brusques les chevaux, ils sont rarement brusques pour d'autres raisons.
Ouais. Mais il est très rude, il n'a pas de manière sociale, on dit, social graces, il est complètement authentique. C'est une des raisons que je l'adore. Une chose, tu peux être sûr avec lui, tu sais comment il va être. Il ne change pas pour personne. Et ça, j'aime beaucoup cette authenticité. Je m'en fous s'il me parle mal. Parce que pour moi, c'est un génie. Pour moi, il est comme Shakespeare ou Beethoven, tu vois. C'est quelqu'un qui est hors norme.
Oui, c'est comme ça que ça fonctionne, ce texte de Bartabas. Donc, d'un cheval à l'autre, il parle de ses rencontres, de ses relations avec les chevaux qu'il a eues dans sa vie. Et là, dans l'extrait que vous avez choisi, Jane Levinin Atwood, on ressent aussi la manière dont un cheval peut être notre miroir, quoi. Il reconnaît dans ce cheval la manière dont lui, il a fait des ruades par timidité, par difficulté de trouver sa place. Donc, il y a ce livre qui s'appelle Horses, que vous avez publié chez EXB. Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, nous raconter peut-être la relation que vous avez avec les chevaux ou comment ça parle éventuellement de ça?
J'ai toujours adoré les chevaux et j'ai fait du cheval un peu jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, où on habitait, ça coûtait trop cher, je pouvais plus. Et après, quand je suis devenue photographe, je pouvais pas prendre le risque de casser quelque chose. Mais aussi, j'avais pas l'argent de continuer à monter au cheval à Paris. Ça coûtait trop cher. Mais j'ai toujours avait ça dans ma tête. Et en 2010, je pense que c'était ma meilleure amie, une personne qui était peut-être la personne la plus importante dans toute ma vie, est atteinte de la maladie de Charcot. Et j'ai arrêté de travailler pour s'occuper d'elle. Et ça a duré 9 mois. Et après ça, j'ai failli de partir aux États-Unis. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ici sans Véronique? Je ne pouvais pas imaginer parce qu'elle était très liée à mon travail. Elle corrigeait mon français quand j'ai écrit en français. Elle connaissait tous mes photos d'A à Z, etc., etc. Tous les problèmes avec des hommes, des chagrins d'amour, on discutait ensemble. En fait, c'était une vraie girlfriend profonde. Tu vois? Et après, je suis allé sur l'île de Wesson, j'avais une résidence. Et là-bas, j'ai rencontré 2 chevaux. Il n'y avait que 2 dans une pasture. Un grand champ, c'était comme des chevaux sauvages, mais ils n'étaient pas sauvages. Et quand j'ai couru à côté, ils couraient avec moi. Et finalement, j'ai commencé à les photographier. Et quand j'ai commencé à les photographier, c'était comme une ampoule dans ma tête où j'ai dit, mais c'est ça que je dois photographier. Moi, j'ai pensé que la photo était peut-être finie. Et donc, j'ai commencé à photographier ces chevaux et après, c'est devenu un sujet. Et voilà.
C'est un sujet d'ailleurs tellement vaste, le cheval, que quand on regarde votre livre, il y a plein de traitements, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi bien l'équivalent d'un portrait qu'il peut y avoir avec des humains, mais aussi, par exemple, je crois, moi, ma photo préférée dans ce livre, dans cette série, c'est juste le dos d'un cheval avec sa robe d'hiver, donc vraiment plutôt des poils assez longs, je pense une robe assez claire. On voit pas son encolure, on voit pas sa croupe, on voit juste ses poils un peu pas bien brossés, quoi. Et on dirait une montagne. On dirait une montagne avec des herbes de fin d'hiver, quoi. Ouais. Et je me dis, c'est fou comme un seul animal peut offrir tant de possibilités, tellement il est riche, quoi.
Ouais. Oui, je vois la photo dont vous parlez. C'était une des premières photos à Wesson, d'ailleurs.
Alors, qu'est-ce que vous voulez lire après ça?
Et c'est pour vous.
Je ne sais pas pourquoi, instinctivement, j'irai vers
mon analyste.
Allez. Sydney Stewart.
C'est parce que c'est tellement extraordinaire que j'ai pu l'avoir comme analyste.
Alors, racontez.
OK, alors Sydney Stewart, c'était un jeune homme en Oklahoma, un plouc. Nous disons an Okie from Fanoki, quand c'est un Oklahoma, garçon d'Oklahoma. Il est allé pour être dans la guerre comme soldat. Il n'avait pas de culture, il n'était jamais sorti des États-Unis avant. Et il s'est trouvé dans la Bataan Death March. Et il était une des personnes qui a survécu cette marche. Et quand après, il a été pris prisonnier par les Japonais pendant, je pense, 3 ans, il a été prisonnier. Et quand il est sorti, il a écrit ce livre et c'est son expérience avec tout ça. Et c'était devenu un best-seller aux États-Unis à l'époque. Mais c'était, you know, juste après la Deuxième Guerre mondiale que le livre est sorti. Et il m'a dit, quand il me l'a donné, il m'a dit, fais pas attention au titre, parce que c'est « Give us this day », c'est une ligne du Bible, « Give us this day our daily bread », and blah, blah, « Forgive us who trespass », blah, blah, blah. Parce que lui, il était aussi athée. Mais quand il est entré comme soldat, il était peut-être croyant. Mais anyway. Donc, je l'ai lu. Quand j'ai fini mon... J'ai fait 9 ans d'analyse avec lui.
Non, mais parce comment il est passé de soldat à psychanalyste.
Et quand le livre est sorti, il a fait beaucoup d'interviews et les journalistes ont essayé de lui dire qu'il était raciste contre les Japonais à cause de tout ce qu'ils ont fait. Et oh non, il n'était pas du tout raciste. Il était fasciné par leur cerveau et comment ils pouvaient faire ce qu'ils avaient fait. Et il voulait comprendre le cerveau humain. Et pour ça, il est devenu psychanalyste. Et il a pratiqué ici en France toute sa vie d'analyste. Et j'ai eu la grande chance, quand j'ai eu mes problèmes, d'avoir Sidney Stewart comme analyste. C'était extraordinaire. Parce qu'à l'époque, et ça c'était dans les années 70, il fallait trouver un analyste qui faisait l'analyse en anglais. Et ça, à Paris. Et ça, c'était hyper difficile. Et je l'ai trouvé et à la fin de l'analyse, il m'a donné ce livre. Parce que comme tous les analystes, il parlait presque pas pendant 9 ans. J'ai fait 9 ans d'analyse. Et moi, je considère qu'il m'a sauvé la vie, vraiment. Il a débloqué ma créativité, qui était la chose la plus importante. C'est de là est née la photographie pour moi. Et toutes les autres choses, parce que je viens d'une famille qui est pleine de problèmes et beaucoup de très violents. Et il m'a sauvé, Sidney Stewart.
On lit un extrait?
OK. Ça, c'est quand ils sont déjà pris par les Japonais. Je ne sais pas combien de soldats américains. Suddenly, the Japanese soldiers began to lose restraint. They jerked off watches and fountain pens. Then they lost their tempers, slugging and beating the men up and down the line. A boy who stood near me cried out with pain.
Soudain, les soldats japonais perdirent toute retenue et ils commencèrent par nous arracher montres et stylos. Puis ils devinrent furieux et se mirent à frapper toute la rangée d'hommes alignés. Tout près de moi, un garçon laissa échapper un cri de douleur en recevant sur la figure le poing d'un garde japonais. Ce dernier éclata de rire, puis il abattit la crosse de son fusil sur la tête du malheureux. Le gosse s'affaissa en gémissant sur les genoux. De toute sa force, le garde abattit de nouveau la crosse et la tête du garçon s'ouvrit sous mes yeux avec un bruit mat. Le corps se convulsa, frissonna, les doigts agrippés au sol, puis il s'immobilisa. Un autre soldat japonais rit et frappa le mort du talon de son soulier. Je me mis tout à coup à les haïr d'une haine violente. Bon Dieu, avec quelle joie j'aurais aimé leur arracher tous les membres. Je me méprisais d'avoir eu autrefois pitié.
But now, good God, how I wanted to tear them limb from limb. I despised myself for the times when I had felt sorry for them.
Bon, donc vous avez lu en anglais, Jane Evelyn Atwood, et c'est vraiment une scène de grande violence. Et en vous écoutant, je me dis, que ce soit dans les projets de photographie que vous avez faits toute votre vie, beaucoup, et dans les livres qu'on a pu croiser là dans votre bibliothèque, c'est comme si ça ne vous dérangeait pas d'aller près de la violence. Enfin, de la regarder, quoi. Ou de la lire. Vous ne la fuyez pas, par exemple. Ça, vous pouvez lire, ça.
Oui, mais ça me dérange. Bien sûr, ça me dérange de... d'être dans la violence. Mais bien sûr, mais si vous allez faire une histoire photographique en profondeur et l'histoire est violente, il faut aller, vous ne pouvez pas être dans les gradins, il faut descendre dans in the ring avec le taureau. C'est ça, c'est une règle, c'est comme ça.
Non, mais je pense par exemple les livres qu'on a vus sur les assassins, Comme s'il y avait quelque chose...
Mais ça, c'était mes 10 ans de prison. J'ai fait 10 ans de prison, femme en prison. Et le crime est quelque chose de fascinant, absolument fascinant. Donc, j'ai lu beaucoup. Il y a beaucoup de livres là à cause de ça. Mais je pense que si je n'avais pas fait 10 ans de prison, je n'aurais peut-être pas lu ces livres-là. You know? J'essaie de récolter beaucoup d'informations que je fais une histoire.
Mais lire ça, par exemple, vous documenter là-dessus, disons que c'est pas... Je sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire que moi, je pourrais avoir tendance parfois à fuir ces écrits-là, en avoir peur, à pas vouloir m'approcher. Vous, c'est une façon
je peux,
de...
Je peux avoir peur, mais je vais pas la fouiller,
ouais.
Pour autant. J'essaye de ne pas la fouiller.
Mais... C'est le monde, quoi.
Comment?
Parce que c'est le monde, parce que c'est
oui,
les humains.
Oui, c'est le monde. Ouais. Et si je fais ce monde-là, il faut que je le fasse. Ouais. You know, il y a des moments où j'arrive pas à faire une photo, par contre. Et quand j'étais jeune, je m'en voulais pour ça. Je disais, tel ou tel autre photographe aurait fait cette photo. Moi, je n'osais pas. Mais maintenant, et depuis très longtemps,
vous y allez.
Maintenant que j'ai confiance dans mes instincts, si je sens que ce n'est pas le moment pour moi de faire la photo, je ne le fais pas. Et je n'ai jamais regretté ça. Parce qu'il y a des moments où il ne faut pas faire une photo. On ne peut pas tout photographier. Et on ne peut pas photographier dans toutes les situations. Il y a trop de donnes qui sont compliquées dans ces situations où moi je vais. Et il faut respecter ces donnes. Il faut écouter, il faut regarder autour, il faut faire le calcul. Est-ce que c'est le moment de faire la photo que tu veux? Oui.
J'avais envie qu'on aille vers Baldwin. Vous avez choisi...
Encore quelqu'un de facile. Mais Baldwin, mais ça c'est... Mais aussi, j'ai choisi des livres qui ont un rapport avec moi, comme mon analyste. C'est génial d'avoir Sidney Stewart comme analyste. Et Baldwin est devenu un ami. Et il est devenu un ami parce qu'un de mes meilleurs amis était là, au Beaux-Arts, et il étudiait la sculpture. Et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, « Jane, tu ne vas pas croire qui je suis en train de sculpter. » Et j'ai dit, « Qui ?» Il m'a dit, « James Baldwin. » J'ai dit, « C'est pas vrai. » Il m'a dit oui, et il m'a dit, tu peux venir avec ton appareil et tu peux le prendre en photo. S'il m'avait dit Jésus-Christ, j'aurais pas été si heureuse. Mais là, je vais te montrer parce que, je vais vous montrer, pardon, quelques-unes des photos juste parce que, comme ça, vous allez comprendre comment
c'était.
Oui,
parce qu'on n'a pas parlé de cette autre bibliothèque derrière nous.
Ça, c'est des photos.
Ouais.
C'est pas des vrais livres. C'est comme ça que je garde tous mes,
wow.
Tu vois, ça c'est le...
Ben, c'est lui face à la sculpture.
1975. Face à ça.
Face à la sculpture qu'on fait.
Ça, c'était mes premières photos. C'était même avant Rue des Lombards. Hein. C'était mes toutes premières photos. Et. Look how nice he is. He was so fantastic. But wait, I want to show you. Il avait toujours un entourage de jeunes hommes avec lui parce qu'il était gay. Et il parlait. Tu pouvais écouter James Baldwin. Jour et nuit. Il était mesmerizing. Il était absolument génial. Tu es presque sous l'emprise de la beauté.
Hypnotisant.
Hypnotisant. Oui. Et il avait une très belle voix. Il a failli de devenir un preacher. C'est pour ça qu'il parle comme ça, probablement. Mais il ne voulait pas. Il est devenu un écrivain. Mais la chose qui est intéressante, c'est que il est venu à Paris à l'âge de 24 ans. Moi, je suis venu à Paris à l'âge de 24 ans. Il est noir, je suis blanche. Il est venu d'une famille pauvre. Je suis venu d'une famille qui avait beaucoup de fric à l'époque. Je suis hétérosexuel. Lui, il est homosexuel. On est devenus amis des années après. Et pourquoi on est devenus amis? À cause de la culture, à cause de ses livres, à cause de ma photographie. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Anyway, this book, when I looked at this book, I realized this book belonged to my mother because I see she signed it here, 63.
Donc c'est elle, c'est votre mère qui l'avait acheté?
Oui, et que je l'ai pris quand j'ai vidé leur maison.
Ça s'appelle Notes of a Native Son, donc 1955.
Yeah, c'est plusieurs chapitres où il parle de différentes choses. Mais au fait, il parle du racisme dans chaque chapitre, au fait. Et le chapitre que j'ai choisi, Stranger in the Village, c'est très intéressant. Parce que Jimmy, ses amis l'appelaient Jimmy Baldwin, Il est allé en Suisse dans un tout petit village qui n'était pas du tout connu, même pas pour les touristes, mm-hmm. un village de 600 personnes, parce qu'il avait l'occasion de rester dans un chalet qui appartenait à la mère d'un de ses copains. Et elle n'allait pas être là, et il disait, tu peux venir écrire tes livres en tranquillité, et personne ne va te gêner. Mm. Mais quand il arrivait dans ce village, les gens dans le village n'avaient jamais vu une personne noire. Mm. Et ils étaient complètement... Il y en avait qui avaient très peur de lui, il y en avait qui se moquaient de lui. Les enfants étaient honnêtes comme tous les enfants. Il a chassé, il a appelé le nègre, comme ça. Et il le touchait même pour voir si le brin allait partir. Mm. Il touchait ses cheveux pour voir pourquoi il avait cette l'air un peu bizarre en comparaison avec une personne blanche, tu vois. Et il parle de tout ça là-dedans, et c'est très beau. Et la fin de ce chapitre, Stranger in the Village, le village suisse, est la fin du livre. The time has come to realize that the interracial drama acted out on the American continent has not only created a new black man, it has created a new white man.
Le temps est venu de prendre conscience que le drame interracial qui se joue sur le continent américain n'a pas seulement créé un nouvel homme noir, il a aussi créé un nouvel homme blanc. Aucune route, aucune, ne ramènera les Américains vers la simplicité de ce village européen où les hommes blancs jouissent encore du luxe de me voir comme un étranger. En réalité, je ne suis plus un étranger pour aucun Américain vivant. Une des choses qui distingue les Américains des autres peuples, c'est qu'il n'existe aucun autre peuple à avoir été aussi profondément engagé dans la vie des hommes noirs, et vice-versa. En regardant ce fait en face, avec toutes ses implications, on voit que l'histoire du problème noir américain n'est pas seulement une honte, elle est aussi, d'une certaine façon, une réussite. Car même quand le pire a été dit, il faut aussi ajouter que le défi perpétuel posé par ce problème a toujours été, d'une façon ou d'une autre, relevé. C'est précisément cette expérience noir-blanc qui pourrait se révéler pour nous d'une valeur indispensable face au monde aujourd'hui. Ce monde n'est plus blanc et il ne sera plus jamais blanc.
This world is white no longer, and it will never be white again. J'ai le frisson quand je lis la dernière phrase.
C'est incroyable.
Et c'est très à propos avec tous les grandes quantités d'immigrés qui bougent, les peuples qui quittent leur terre et qui viennent ailleurs et tout. Il a écrit ça en 54.
Ouais.
Et c'est aujourd'hui.
Je me dis qu'après Baldwin, on peut aller voir Hélène Devinck avec le livre Impunité. Ouais. Ça vous va?
Ouais. J'adorais ce livre.
On dit deux, trois mots peut-être de qui est Hélène Devinck et de ce que c'est que ce livre Impunité.
Ok. Well, elle, avec ce livre, elle a pris la grande responsabilité de parler de toutes ces femmes qui étaient sexuellement abusées par PPDA. On peut citer le nom à la
Bien
radio.
Bien sûr, oui. Évidemment.
Et elle-même, elle a été violée par lui avant. Et en bref, elle a parlé avec ces femmes. Et je crois qu'il y avait, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 23 femmes. Probablement, il y a plus parce que, d'après, j'ai pu comprendre, s'il peut dire, bon, tout était prescrit, mais si on peut prouver que c'était un violeur en série, la prescription ne fonctionne plus. Mm-hmm. Et donc, il disait, si ça vous est arrivé, quelque chose, il faut venir à la police et raconter. Mm-hmm. Donc, bref, c'était comme ça. Et elle a écrit ce livre, et c'est très clair, c'est un livre absolument génial. Anyway, voilà. À partir d'un certain niveau de célébrité, aucun Français n'a jamais été condamné pour des faits de délinquance sexuelle. Jamais, aucun. Avant nous, des femmes ont été entendues, même si la justice n'en a rien fait. Flavie Flamand, Vanessa Springora et Camille Kouchner ont écrit des livres pour dénoncer les pédocriminels, David Hamilton, Gabriel Matzneff ou Olivier Duhamel. Le premier a construit sa notoriété sur des images de fillettes violées. Le deuxième en a fait le sujet obsessionnel de ses livres et l'essentiel de son fonds de commerce. Le dernier a reconnu l'inceste sur son beau-fils. L'aveu est considéré en droit français comme la reine des preuves. Tous avaient violé des enfants. J'étais majeure quand j'ai été violée par un des hommes les plus connus du pays. Pour l'avoir vu à l'œuvre sur plusieurs sujets, je ne pouvais avoir aucune illusion sur son rapport à la vérité. Je savais des aveux inenvisageables. Tout se passe comme si le MeToo français butait contre un mur solidement cimenté par un mythe. Les femmes devraient savoir se défendre toutes seules. Aucune femme agressée à l'âge adulte ne s'est sortie sans dégâts d'une prise de parole publique contre un homme célèbre. Aucune. Jamais.
Tout à l'heure, quand on était dans votre chambre, Jane Evelyn Atwood, il y avait un endroit que vous avez appelé... je ne sais plus, c'était genre Me Too Book. Me Too Books. Dans des livres où il est question des violences sexuelles, sexistes, des violences quoi, faites aux femmes ou aux enfants. J'ai aperçu aussi dans un coin le livre de Neige Sino, Triste Tigre. Pourquoi est-ce que ce livre-là est important? Ou peut-être pourquoi est-ce que tous ces livres-là, peut-être de votre bibliothèque, sont importants pour vous?
Parce que je suis une femme. Et je suis une femme féministe. Et... malheureusement, le mot féministe maintenant a une connotation des fois négative. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que toutes les femmes qui sont intelligentes, il faut être féministe. On ne peut pas être autrement. C'était temps que cette Me Too movement arrive. Voilà. Il y en a marre. Basta.
Mais le fait de, par exemple, de lire des livres où les femmes prennent la parole...
c'était excitant. C'était enfin, on est là, enfin. Mmh. Heureusement, elle a écrit ce livre. Mmh. You know, moi, j'ai cherché tous les livres que je pouvais. Chaque fois que j'ai entendu à la radio un livre comme ça, je l'ai acheté.
Mais comme si c'était des livres qui avaient manqué à votre vie de lectrice, oui, ou votre vie de femme tout court.
Exactement. Mmh. Oui, oui. Mmh. Il y en avait peut-être, je ne me souviens plus parce que je n'ai pas de mémoire. Avant, comme maintenant, on parle beaucoup de transsexualisme et tout ça. Il y a un merveilleux livre qui a été écrit il y a très, très longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, qui s'appelle The Conundrum. A conundrum, c'est a riddle. C'est quelque chose où on ne trouve pas la réponse.
Riddle, une énigme.
Riddle, une énigme. C'est une énigme, a conundrum. Et c'est écrit par une femme qui était trans, mais dans les années, je ne sais pas, 50 ou quelque chose comme ça. Et she was a travel writer. Elle était une écrivain de tourisme. Donc, elle écrivait très bien, mais elle parlait de son propre cas. Et c'est une toute petite livre comme ça, c'est une des plus beaux livres que j'ai jamais lus sur le problème, entre guillemets, de transsexualisme. Et donc, je pense qu'avec Me Too, il y avait des livres que certainement, ben, bon, Simone de Beauvoir, j'ai lu. On a lu à l'université, Simone de Beauvoir. Mais tout le monde disait à l'époque, c'est génial, mais en fait, ça n'a pas pris. It didn't take. On continuait d'être sexiste jusqu'à maintenant. Enfin, il faut changer le mentalité. You know, moi, j'ai eu le grand bonheur d'avoir des hommes dans ma vie qui sont des hommes géniaux. Commençons par mes deux frères. Je suis avec un homme qui est un féministe. You know, et bon, donc je suis pas amère, mais je suis fascinée par le fait qu'il y en a qui sont pas. Quand je pense qu'il y a des femmes qui ont voté pour Trump, ça me dépasse. Ça fait peur. C'est toute une mentalité, il faut changer.
Le dernier livre que vous choisissez, c'est un livre de Stéphane Kremer. Le livre s'appelle Le rôle du père. C'est le livre le plus récent que vous avez choisi de partager avec nous. Est-ce que vous voulez le présenter avant d'en faire lecture?
Ok, mais peut-être vous devez le lire parce que c'est en français.
Ah, ok.
Déjà, Stephen Kramer, c'est un ami. Et avant, il travaillait chez Xavier Barral. C'est là où je l'ai rencontré. Et quand Xavier était vivant. Et après, il a déménagé pour la Bretagne et maintenant, il publie ses propres livres, ses livres comme ça et ses livres de poésie. Mm-hmm. Son père était un acteur hyper connu qui s'appelait Bruno Kramer. Moi, je ne savais pas qui était son père, mais il paraît que tous les Français connaissent Bruno Kramer. Il n'est pas gentil avec son fils. C'est pas qu'il a pas... il donnait de l'argent pour le fils, mais il donnait aucune affection. Même il y a une scène à la fin quand il meurt et Stéphane va aux obsèques. Et je pense que c'est Jean Rochefort qui vient, qui dit, mais qui est cette personne qui est toujours avec la famille? Et Stéphane a dit, je suis le fils. Le père avait jamais parlé de lui. Et c'est très, très dur. C'est très, très dur. Par pur hasard, hier, j'ai lu une mauvaise critique de ce livre. Et je peux vous dire, et je dis à la radio, je suis complètement contre cette critique. Je n'ai pas du tout le même avis que cette critique, qui disait que c'est un règlement de compte et que c'est à travers une serrure. Ce n'est pas du tout à travers une serrure, c'est, si je peux m'exprimer ainsi, la bouche du cheval, from the horse's mouth, parce que Stéphane était quand même le fils. Il est bien placé pour parler de ce type. Beaucoup, beaucoup mieux placé que les acteurs qui le voyaient comme un acteur formidable, mais qui peut-être ne le connaissaient pas profondément. Donc moi, je défends ce livre, bien sûr. Et je défends aussi le fait que Stéphane a écrit le livre, parce que je pense que c'est très important pour tout le monde qui a un problème comme ça, de se débarrasser de ce problème et de faire en sorte que la personne en question, le père, n'est pas vu seulement comme quelqu'un de bien, parce qu'il avait un autre côté. Ça, c'est l'autre côté de médaille, vous voyez? Et j'adore le titre, parce que son père était acteur, et le titre, c'est le rôle du père, le rôle qui faisait le pire. Il ne savait pas jouer ce rôle-là. Voilà.
J'ai cessé de pleurer. Je me suis endormie, épuisée, quand une sonnerie stridente retentit tout près de moi. Alors je rouvre les yeux, toujours entourée de la toile bleue de mon landau, sa capote relevée qui voudrait me couper du monde. Revenue pendant que je dormais d'on ne sait où, à faire on ne sait quoi, j'entends ma mère qui répond au téléphone. Très vite, elle se met à crier dans l'appareil, je la reconnais. Elle agonie ma grand-mère, me voue aux gémonies. Quoi ? Cette crotte peut bien rester 5 minutes toute seule, non? Tu ne vois donc pas que j'étouffe? Bon sang, ta vermine de petit-fils me pompe l'air. Tu comprends, à la fin, il me gave, c'est quand même pas compliqué. Il passe son temps à brailler comme si je l'égorgeais avec un couteau. Fait-elle en rapprochant le combiné du landau, dont elle rabaisse la capote pour qu'on m'entende encore mieux. C'est vrai que je ne peux rien faire d'autre pour essayer de la faire taire que crier plus fort qu'elle. Je suis trop petit, sinon. Crier, c'est tout ce que je sais faire. Intérieur, appartement maternel, entrée, éclairage éblouissant du lustre de Murano. Elle a raccroché, puis m'a déplacée dans l'entrée et encore une fois plus rien. Enfin, on sonne à nouveau à la porte. Vocifération de ma mère qui ouvre à ma grand-mère. « Tu me cours dessus ?»« Et lui encore plus, tu entends ? Vous me courez tous dessus ? Emmène-moi ça, bon sang, plus vite et bon débarras, et que ça saute, oust, hors de ma vue !» Je ne comprends pas un mot de tout ce qu'elle dit là, mais j'entends le timbre des phrases. J'en ressens l'intonation, j'en ai des frissons. Les mêmes que le jour où je tombe sur cette lettre, dans laquelle elle relate mot pour mot à mon père cette scène du 5 octobre 1954. J'ai 6 mois dans 2 jours. Ma mère, pas encore 24 ans. Mon père, 25 demain, qui lui répond noir sur blanc, depuis la caserne où il est tranquillement planqué depuis bientôt 1 an pour son service militaire à Montlhéry. Je sais combien cet enfant t'est insupportable et là où tu te trompes, c'est quand tu crois que je t'en veux. Bien au contraire, si tu savais comme je te comprends, la nouvelle de son retour à la maison m'avait fait l'effet d'un vrai coup de massue. Nous sommes tous trop jeunes, beaucoup trop, trop petits. Il écrit depuis ses 6 mois, si je comprends bien.
Il se met dans la peau d'un nourrisson.
Oui. Ouais. Oui. Mais quand elle dit, la mère, cette crotte, c'est incroyable. Comment ils étaient... et quand il a tombé sur cette lettre, tu es blessé pour le reste de ta vie.
C'est là-dessus qu'on termine.
Ok. C'était difficile pour moi à lire ce livre parce qu'il a des phrases qui sont la longueur d'une page. Alors j'arrive à la fin, j'oublie qu'est-ce qui s'est passé au début. Mais je l'aimais beaucoup ce livre.
Merci beaucoup.
Et merci à vous.
Jane Evelyn Atwood. Une minute de silence pour le montage.
Tu connais le terme là, c'est ça que j'allais te demander là-dedans. Chick-lit.
Non.
Chick-lit,
ah oui. C'est ça le truc fluff, c'est ça?
Yeah, it's a little bit fluffy. You know, like a... Lit for littérature. Check is for nana.
Ah oui, les livres un peu de gonzesse, quoi. Ouais. Ok.
J'ai envie de vous photographier comme ça.
Vas-y.
C'est pas le Leica, mais bon. Ça marche.
Là, je suis vraiment dans mon. J'aurais envie de dire mon plus simple appareil. Bonnet, lunettes, casque, écharpe.
Oh, great.
Really?
Well, I got everything. This one
is not possible. This one is okay. This one is okay.
That's beautiful, even though it's flu, but it's good.
This one not possible. This one not possible.
No, I love it.
Merci beaucoup, Jane.
Merci à vous. Merci, Marie.
Riche.
E-U-X. C'était un plaisir.
Ouais, partagez.
Faites attention à vous.
Ouais, je vais faire attention.
Okay.
Allô?
Bye. Au revoir.
Pour réécouter le portrait de bibliothèque de Jane Evelyn Atwood, vous vous rendez sur la page du Book Club, franceculture.fr. Vous trouverez la référence des textes qu'elle a lus et aussi les références des traductions et des éditeurs. À la prise de son, à l'extérieur ici, c'était Frédéric Quérou. Au mixage, c'était Julie Garraud. Et à la réalisation, c'était Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Salut les gars!